Oui, Seigneur, viens ouvrir nos cœurs à la vie, comme nous l'avons prié tout à l'heure, par la puissance de ton Esprit Saint, qui est si doux et si fort en même temps. Voilà, Seigneur, nous sommes pauvres, et sans toi, cette assemblée ne peut pas recevoir la vie. Rien ne peut se faire sans ta présence, Dieu notre Père, sans le don de ton Esprit Saint, sans la présence du Christ. Trinité Sainte, nous te bénissons et nous t'adorons de tout notre cœur. Dieu un, nous te vénérons. De l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 1, à partir du verset 14. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Passant au bord du lac de Galilée, il vit Simon et son frère André en train de jeter leurs filets. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit: venez derrière moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant là leurs filets, ils le suivirent. Un peu plus loin, Jésus vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient aussi dans leur barque et préparaient leurs filets. Jésus les appela aussitôt. Alors, laissant dans la barque leur père avec ses ouvriers, ils partirent derrière lui. Alors, dans ce court récit, nous voyons que le premier évangélisateur, le premier à annoncer la bonne nouvelle, c'est Jésus lui-même, le Fils de Dieu, qui s'est fait homme, qui a pris notre chair et qui a voulu marcher sur nos chemins, en particulier sur les chemins de Galilée, de Judée, pour nous annoncer la bonne nouvelle. On pourrait se dire, Dieu qui prend son bâton de pèlerin pour aller annoncer la bonne nouvelle en Galilée, c'est loin de chez nous, à une époque reculée il y a 2000 ans, comment cela pouvait-il avoir un effet sur le monde et sur les milliards de personnes qui habitent le monde aujourd'hui? Eh bien, c'est ça le mystère, c'est que tout est parti de ce Jésus, de cet homme, de Dieu qui part humblement sur les chemins évangélisés en Galilée. Parfois, on se dit, mais Dieu me demande certainement des grandes choses, mais je suis incapable de rien, donc je ne vais rien faire. Mais non, Dieu me demande des petites choses. Voilà, comme ce Jésus, Dieu lui-même a voulu aller sur un chemin. Entre chaque village, il fait des kilomètres, il marche, pendant la marche, il prie, puis il va évangéliser quelques personnes. Il guérit des gens, puis repart ailleurs. C'est très humble ce que Jésus a fait. Et c'est Dieu lui-même qui fait ça. Pour nous montrer que l'évangélisation, c'est quelque chose de simple et de humble. Vous voyez? Et le message de Jésus, Marc le résume en deux phrases. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alors les temps sont accomplis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un temps pour tout, comme dit Coëlette, ou l'Ecclésiaste, parce que le livre s'appelle de deux manières différentes. Donc Colette disait, il y a un temps pour tout, un temps pour construire, un temps pour détruire, un temps pour naître, un temps pour mourir. Et bien là, les temps sont accomplis, ça veut dire que Dieu a décidé que maintenant, il allait lui-même venir dans notre monde. Il y a eu le temps des prophètes qui ont annoncé cette venue, et le temps est accompli. Et nous sommes maintenant, aujourd'hui, alors je vous parle, dans ce temps accompli, nous sommes dans le temps de l'accomplissement où Dieu est venu lui-même nous annoncer la bonne nouvelle pour nous donner la vie. Le temps est accompli pourquoi alors? Eh bien, il est accompli parce que le règne de Dieu est tout proche. Alors qu'est-ce que c'est que le règne de Dieu? Dans les évangiles, on ne définit jamais ce qu'est le règne de Dieu, mais il y a des paraboles du royaume, on ne nous dit pas exactement ce qu'est le règne de Dieu. Ben, s'il n'y a pas de définition de règne, du règne de Dieu dans l'Évangile, c'est qu'en fait, il n'y a pas de définition du tout du règne de Dieu. Le règne de Dieu, c'est quelque chose qui ne se définit pas, puisque c'est la venue de Dieu lui-même, c'est quelque chose d'infini, d'immense. À partir du moment où on définit les choses, on les met dans un cadre, ça y est, j'ai défini le règne de Dieu, c'est bon, je parle à autre chose. Non, on ne passe pas à autre chose, on ne peut pas définir, c'est infini. Le règne de Dieu, c'est infini, c'est l'amour de Dieu qui est donné, qui nous a donné en plénitude. C'est notre salut, c'est la porte qui était fermée, qui est enfin ouverte pour que nous puissions recevoir la vie et aller vers le Seigneur. Donc ce règne de Dieu, c'est quelque chose de très mystérieux, qui est indéfinissable, même si justement il y a des paraboles pour en parler. Ces paraboles sont des paraboles mystérieuses pour évoquer ce mystère du règne de Dieu qui grandit dans nos cœurs humblement, à travers les paraboles de la semence, par exemple. Ce règne de Dieu, c'est la présence de Jésus lui-même au milieu de nous, mais ce règne de Dieu, c'est surtout quelque chose que nous sommes appelés à expérimenter dans notre cœur. Quand nous prions, nous pouvons sentir le règne de Dieu parce que nous recevons la paix. Quand nous prions, nous recevons très souvent la paix. C'est déjà une expérience du règne de Dieu. Nous sentons que la parole de Dieu agit en nous, qu'elle porte du fruit en nous, qu'elle nous habite, qu'elle nous revient de temps en temps. C'est une autre expérience du règne de Dieu. Il y a des guérisons dans cette assemblée. C'est une autre expérience du règne de Dieu. Voilà. Le règne de Dieu, on l'expérimente. On le goûte, on le vit et on entre de plus en plus dedans et il entre de plus en plus en nous. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, nous dit aussi Jésus. Se convertir, vous savez, quand on fait du ski, on fait une conversion, ça veut dire qu'on tourne. Bon, moi je suis nul en ski, c'est pour ça que j'en parle bien. J'ai jamais réussi à faire des conversions correctement. Mais je sais qu'une conversion, c'est quand on tourne les skis d'un côté à un autre. Donc se convertir, ça veut dire se tourner vers Jésus. Se tourner vers Jésus. Et vers quoi on n'est pas tourné si Jésus nous demande de nous tourner vers lui, quel est notre problème actuellement? C'est qu'on est tourné vers autre chose que Jésus. Vers quoi? Eh bien, on est tourné vers nous-mêmes. On est beaucoup tourné vers nous-mêmes. On est tourné vers nos ennuis, nos soucis, tous nos problèmes. On est tourné, parfois vers la mort, parfois vers la tristesse, des choses qui nous enferment. On n'est pas tourné vers la vie. Jésus nous demande de nous retourner vers la vie, comme Marie-Madeleine dans l'évangile de Jean. Jésus l'obligera à se retourner vers lui. On voit qu'elle fait une conversion en découvrant Jésus ressuscité. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est ce que je viens de vous dire, c'est que Jésus nous sauve, que Jésus vient parmi nous, Dieu vient parmi nous pour nous sauver et nous donner la vie, que Jésus est mort pour nous, nous le savons aujourd'hui, qu'il est ressuscité. Voilà le message du Seigneur. Alors, peut-être qu'il disait d'autres choses, mais c'est résumé en deux phrases. C'est très simple. Vous voyez que l'évangile, c'est quand même quelque chose de simple. Ensuite, Jésus se dit, il le sait déjà, il va constituer une communauté pour évangéliser avec lui. Et notamment, quand je dis qu'il le savait déjà, c'est qu'il en avait le projet depuis de toute éternité. Il avait le projet d'appeler les apôtres, et bien des disciples, des femmes, etc. Il passe au bord du lac de Galilée et il voit Simon et André en train de pêcher. En fait, ce que le texte ne dit pas, c'est que Simon et André connaissaient déjà Jésus, puisque Simon et André sont des disciples de Jean-Baptiste et que Jean-Baptiste, nous le voyons dans l'évangile de Jean, a désigné Jésus comme le Messie. Et quand Jésus passe et qu'il appelle Simon et André à venir derrière lui et à devenir pêcheurs d'hommes, pour eux, c'est quelque chose d'inouï, d'extraordinaire. Comment moi, il m'appelle, moi pêcheur, Simon, moi André, qui suis un pêcheur dans les deux sens du terme, il pêche des poissons et il fait des pêchés, moi il m'appelle, moi il m'a vu. Vous voyez, quand on fait l'expérience que Dieu nous a vus, qu'il nous appelle, qu'il nous aime, c'est une expérience extraordinaire. Il me connaît par mon prénom. Il me connaît par mon prénom. Dieu, il me connaît par mon prénom. C'est dingue. Même des gens qui sont pratiquants depuis longtemps, qui vont souvent à la messe le dimanche, ils n'ont pas toujours pris conscience que Dieu les connaît personnellement. Et souvent, ils font de la religion, ça arrive, on fait de la religion, quand je dis « c'est moi aussi » parfois, une abstraction. Voilà, Dieu, il est au ciel, mais on n'arrive pas à percuter qu'il est avec nous, qu'il nous aime, qu'il nous connaît personnellement, qu'il entend nos prières. Jésus leur dit, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Eh bien oui, c'est des pêcheurs de poissons, ils vont devenir des pêcheurs d'hommes. Mais la différence entre le pêcheur de poissons et le pêcheur d'hommes, c'est que le poisson, quand on le pêche, il meurt. Un poisson qu'on pêche, il meurt. Un homme qu'on pêche, il ressuscite, il vient à la vie. C'est la grande différence entre le poisson qui est pêché et l'homme qui est pêché par Jésus. Quand Jésus pêche un homme, c'est pour le faire revenir à la vie. Quand les apôtres vont pêcher des hommes à sa suite et pour revenir à la vie. C'est pour ça que les apôtres sont heureux de suivre le Seigneur. Alors, ils ne savent pas encore tout ce qui va arriver, mais ils sont heureux de suivre Jésus pour devenir des pêcheurs d'hommes à sa suite. Donc, aussitôt, ils quittent leur barque. Aussitôt, ils quittent leur père. Pour suivre Jésus, il faut toujours quitter quelque chose. Pas forcément quitter sa maison, son appartement ou je ne sais pas quoi. Non, mais il y a toujours des choses à quitter. Parfois, il faut quitter un peu la télévision, il faut quitter nos péchés, il faut quitter des choses. Il faut toujours quitter des choses quand on veut aller vers Jésus, pour être libre d'aller avec lui, pour être libre d'avancer avec lui. Et alors les apôtres vont voir les merveilles, les guérisons que Jésus opère. Et nous, nous en sommes aussi témoins ce soir, puisque je demande à Pierre de venir pour nous donner son témoignage. Voilà, alors Pierre a un témoignage qui est fort parce qu'il est lui-même médecin et chirurgien, et donc un médecin guéri par le grand médecin qu'est Jésus, c'est une grâce.
Bonsoir. Donc, je m'appelle Pierre, j'ai 61 ans, je suis marié, j'ai 5 enfants et je suis chirurgien plasticien travaillant exclusivement dans un centre de grands brûlés à Lyon. En effet, j'estime que les grands brûlés sont vraiment les patients pour moi les plus souffrants, mais je ne vais pas détailler ce sujet maintenant. J'ai contracté un lymphome du manteau, un lymphome malin, en 2010, et ce lymphome a récidivé en juin 2013, et donc j'ai bénéficié d'une chimiothérapie lourde et d'une greffe de moelle osseuse. Je suis en rémission complète depuis 2 ans, donc tout va bien, mais j'ai comme séquelles, en particulier une neuropathie des 4 membres, des 2 mains et des 2 pieds, donc des troubles sensitifs, et donc je ne supporte plus en fait le port de mes gants de chirurgie plus d'une demi-heure, voire beaucoup moins si je fais un effort important avec mes mains. Et en fait, quand je mets mes gants, mes doigts s'engourdissent, ils deviennent rapidement insensibles et douloureux. Alors, étant en rémission, j'ai repris mon travail, mais je ne pouvais plus exercer donc la chirurgie. Dans le service, toujours chez les brûlés, je m'occupais exclusivement des protocoles thérapeutiques. Alors, ma vie était devenue beaucoup plus cool, si je puis dire, sans intervention, mais vraiment, j'avais du mal à ne pas opérer, en fait. Et puis, je cherche mes mots, excusez-moi. Donc, j'ai donc repris ce travail et il a fallu je priais tous les jours pour ma guérison et donc je suis venu ici demander à Jésus qu'il me sorte de cette situation, cette espèce d'impasse. Il fallait que je vous précise aussi que je venais d'acquérir un master 2 de philosophie et que éventuellement, je voulais faire une thèse de doctorat pour faire autre chose que de la chirurgie. Et là, ici même, avec mon épouse, c'était le 26 novembre dernier. Donc, j'étais présent avec vous. Et une fois que le Saint-Sacrement déambulait parmi vous et devant moi, le Père Thierry a dit cette phrase : il y a une personne dans l'assistance qui est en train de guérir de ses mains. Alors, j'ai évidemment pensé à moi, mais j'ai refusé cette parole. Pourquoi ? Ça peut paraître bizarre. Je sentais toujours mes pieds engourdis, insensibles, et puis j'avais les doigts complètement gelés, le chauffage était en panne. Et donc, je disais, c'est pas pour moi, mais ça a quand même commencé à me travailler. Et donc, toutes les conséquences de cette guérison éventuelle ont parcouru ma tête. Et puis, à un moment, je me suis dit, cette parole, Jésus l'a prononcée pour toi. Je ne l'ai pas inventée, je l'ai entendue. Elle était inspirée de l'Esprit-Saint. Elle est sortie de la bouche du Père Thierry. Et donc, elle était pour moi. Alors, je l'ai acceptée. Et j'ai vu que c'était là, en fait, mon avenir. C'était là la solution. Alors, mes doigts se sont réchauffés progressivement et leur sensibilité est devenue tout à fait normale. Alors je suis tombé en pleurs dans les bras de mon épouse, qui était à côté de moi, et Agnès m'a dit, mais texto, c'est pas possible, tu ne voulais pas guérir. Et effectivement, il a fallu que j'avoue que j'étais toujours entre deux eaux, entre le fait de garder mon statut de chirurgien et puis faire une immersion totale dans la philosophie. Mais le Christ en a décidé autrement. Alors, aujourd'hui, avec du recul, il faut que je finisse de préciser que, évidemment, tout de suite, je suis rentré à Lyon. J'en ai parlé à mon chef de service qui m'a dit « Bienvenue au club, on a besoin de bras, donc, ok, tu vas retravailler, tu vas reprendre des consultations, des interventions, mais il va falloir passer par le médecin du travail. » Alors, j'ai vu le médecin du travail qui m'a fait un examen neurologique complet au niveau des mains, qui était strictement normal. Il était particulièrement stupéfait parce que ma neuropathie était objectivée par un électromyogramme sans appel. Et puis, il y avait cette phrase... Et puis, il y avait cette phrase sans appel aussi de l'électrophysiologiste qui m'avait dit, quand je voulais la revoir, pour dire, bon, ça va sûrement guérir. Il m'a dit, c'est pas du tout la peine que je vous revoie, parce que ça fait 15 ans que je fais ces examens, et je n'ai jamais vu une seule neuropathie guérir. Donc, j'ai repris le travail. Voilà. J'ai repris le travail et j'ai repris le piano parce que ça me tenait à cœur et avec le plus grand bonheur. Et aujourd'hui, maintenant, j'ai vraiment l'intime conviction que j'ai rencontré Jésus présent dans le Saint-Sacrement quand il est passé devant moi. Voilà, c'était une vraie rencontre. Et... excusez-moi. Et en fait, il a répondu à cette question que je me posais depuis des années, qui m'interpellait. Vous savez, juste avant de communier, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais il dit seulement une parole et je serai guéri. » Alors... je ne suis pas digne, c'était d'accord. Ça ne posait pas un problème. Et là, Jésus, tu m'as guéri et je suis transformé physiquement, psychologiquement et spirituellement. Donc, alléluia.
Voilà, maintenant, je vais demander à Pierre aussi de nous lire. Il aime bien composer des prières. Et donc, il va vous lire une de ces prières qu'il a composées pour demander au Seigneur sa guérison.
Ça commence par une interpellation personnelle. Pierre, 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 fais confiance au Seigneur, agis bien, habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Je reprends le psaume 36. Mon Seigneur est mon Dieu, me voici aujourd'hui devant toi pour t'aimer, te servir et te mettre en premier dans ma vie. Je te rends grâce pour tout ce que tu as fait pour moi et pour l'ensemble de ta création. Je te rends grâce aussi pour tout ce que tu feras aujourd'hui et demain. Seigneur, comble-moi de ton Esprit Saint. Comble chacune de mes cellules, chacune de mes molécules, chacune de mes particules élémentaires. Transforme toutes celles qui ne sont pas en relation avec moi et toi. Ainsi, je mobilise avec toi toutes mes cellules immunitaires, afin qu'elle détruise toute cellule cancéreuse, tout microbe pathogène. Je mobilise aussi toutes mes cellules souches afin qu'elles régénèrent tous mes tissus lésés et restaurent leurs fonctions défaillantes, car telle est ma volonté. Et que ta volonté soit faite, Seigneur. Chasse tout esprit et coupe tout lien qui ne vient pas de toi. Et maintenant, au nom de notre sacrement de mariage et de la mission que tu nous as confiée à ma tendre épouse Agnès et à moi-même, préviens-nous et guéris-nous de tout mal physique, psychologique et spirituel, afin que nous puissions faire rayonner ton amour dans la création tout entière. Guide mes mains lors des gestes que je ferai aujourd'hui en opérant. Guide mon cœur afin que ma relation aux autres soit à ton image. Que ta loi, Seigneur, soit dans mon cœur et que mes lèvres redisent ta sagesse. Fais de moi un homme libre, juste, intègre et fidèle, qui dirige son chemin vers toi, car toi seul est le chemin, la vérité et la vie. Amen.
Voilà, merci beaucoup Pierre pour cette superbe prière qui témoigne aussi qu'il est scientifique. Même si vous ne faites pas des prières aussi belles, le Seigneur vous entend quand même, vous écoutez, vous inquiétez pas, et vous pourrez la réécouter sur Internet. Voilà, nous allons maintenant accueillir Jésus lui-même qui vient, puisqu'il est le chemin, la vérité et la vie, comme nous venons de l'entendre. Il vient nous donner sa vie et il vient nous conduire vers le Père. Jésus vient réellement présent dans le Saint-Sacrement.